tuer dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse si ce pas. Voilà l'intraveineux. La solution à cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est une fois de plus l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
D'abord, un petit mot sur un copain qui a disparu.
C'est Thierry Delavaux. Qui a animé pendant vraiment longtemps une émission qui s'appelait d'abord Trisomie 21 et ensuite, après Trafic, et qui a arrêté en 2021, en fait, alors qu'il était au début de la radio. Et il faisait une émission musicale, donc, pour tout ce qui pouvait être toutes sortes de thèmes culturels. Et donc, si vous voulez des détails sur à la fois sur son parcours et sur ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'il est décédé, vous pouvez consulter. Pour le moment, c'est le seul endroit où on trouve vraiment des éléments d'information. C'est sur le blog de Floréal. Vous voyez, blog de Floréal Melgar. Et il y a un article qu'a écrit Floréal qui s'appelle « Salut Thierry » et où il y a des contributions qui donnent des éléments et tout pour ceux qui l'ont connu ou qui ont connu son émission et qui voudraient un peu se renseigner sur ce qui s'est passé. Le blog de Floréal, voilà. Et puis, il y a la prochaine émission de Florence qui s'appelle «
Des cailloux dans l'engrenage ». Il y a un hommage à Thierry.
C'est quelle heure déjà?
À 14h aujourd'hui.
À 14h aujourd'hui, donc ce sera un hommage à Thierry.
Et donc, la chanson qu'on va passer, c'est une chanson qui a été des Berruriers Noirs, qui a été produite par Thierry.
Oui, il avait un label, alternatif qui s'appelait Visa avec c'était un acronyme, je sais plus de quoi, mais enfin avec un point entre chaque lettre, Visa, et où il avait vraiment, surtout au début, une démarche totalement alternative. C'est lui, je crois bien, qui a été le premier à faire un concert et a édité des chansons des Berruriers Noirs. Il éditait beaucoup de chansons, de musique alternative et punk en particulier. Et il les faisait tout seul, quoi, pour que ce soit pas cher. Il le faisait lui-même avec une machine à dupliquer chez lui. Et puis il confectionnait sur une petite cassette. Un peu comme Courge d'ailleurs, sur une petite cassette, c'est pas cher. Et comme ça, par exemple, c'était distribué entre autres à Publico. Mmh. Et comme c'était très peu cher, des gens se disaient, tiens, c'est pas très fortuné, se disaient, tiens, ça vaut le coup d'essayer ce groupe que je connais pas. Oui. Et donc, voilà.
C'était dans les années 80, les squats, une effervescence.
Oui, c'était underground squat.
Eh bien, on écoute Chromosome Y.
De Berruriers Noirs, donc.
Chromosome Y.
Chromosome
Y,
chromosome Y, en maman suis-je un tueur,
dans le son le bonheur. Est-ce que tu en as peur? Et je tuerai ma sœur.
Propos modo miracle, propos modo miracle.
Épargne mon cœur, attends le malheur. Prenons le secteur, assassin sauveur. La couteau plein de sang, assassine un enfant. Et le soir mourant, l'assassin a peur.
Comme aux hommes miracles,
condamné à mort et condamné à tort. Le bourreau est content et l'assassin en pleure.
Comme aux hommes miracles,
la chaîne électrique ou à la guillotine. Par un matin sordide, l'assassin qui sourit.
Comme aux hommes miracles,
le sang du meurtrier a coulé jusqu'au pied. Dans la foule dégoûtée, du bourreau satisfait.
Comme aux hommes miracles,
aux mains de l'État, la force s'appelle droit. Aux mains d'individus, elle se la meurtrie.
Père Huriez Noir, chromosome Y, c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89.4. Alors, c'est un peu en vrac aujourd'hui, des articles et des extraits de livres.
Dont on a déjà parlé un peu la semaine dernière, tu as lu un extrait.
Oui, c'est le livre de Jörg Blech, Les inventeurs de maladies, manœuvres et manipulations de l'industrie pharmaceutique. Et je peux lire des extraits du chapitre intitulé « Où la folie devient normalité ». Avec en exergue une phrase de Aldous Huxley du meilleur, Le meilleur des mondes. Ce qu'il vous faut, c'est un gramme de soma. Comment différencie-t-on un fou d'un individu sain? David Rosenhan, psychologue à l'université Stanford de Californie, tenta de répondre à cette question en 1968 en jouant lui-même le premier rôle dans son expérience. Pour cela, le chercheur, alors âgé de 40 ans, s'abstint pendant plusieurs jours de se laver et de se brosser les dents. Il se laissa pousser une barbe de 3 jours et enfila des vêtements sales. Puis, sous un faux nom, il prit rendez-vous dans une institution psychiatrique et se fit déposer devant l'établissement par son épouse. Au service des entrées, Rosenhan décrivit au médecin les voix qu'il prétendait avoir entendues. Celles-ci, disait-il, étaient presque incompréhensibles, mais rendaient néanmoins des sons vides, sourds, caverneux. Ce dont les psychiatres ne se doutaient pas, c'est que Rosenhan mentionnait précisément ces symptômes parce qu'aucune psychose leur correspondant n'était décrite dans la littérature médicale. Une fois hospitalisé, le chercheur se comporta à nouveau de manière parfaitement normale. Il discutait avec d'autres patients et avec le personnel, attendant la suite des événements. Dans les années qui suivirent, l'expérience fut réitérée plusieurs fois. Rosenhan et 7 autres compagnons de lutte, eux aussi en parfaite santé mentale, se firent interner pour les mêmes symptômes dans 12 cliniques psychiatriques. Les règles de l'expérience prévoyaient que les pseudo-patients tentent de quitter les institutions par leurs propres moyens. Les participants se comportaient donc tout à fait normalement et se montraient coopératifs. Ils suivaient les règles de vie de l'institution et prenaient les psychotropes prescrits, du moins en apparence. Auparavant, ils avaient en effet appris comment coller un comprimé sous la langue au lieu de l'avaler. Chaque fois, la même question brûlante se posait. Combien de temps faudrait-il au psychiatre pour découvrir les faux patients et les jeter dehors manu militari? Réponse, pas un seul des pseudo-patients ne fut démasqué. Les participants furent internés en moyenne pour une durée de 3 semaines et ressortirent tous avec un diagnostic psychiatrique, le plus souvent une schizophrénie en voie de rémission. 2100 comprimés, parmi lesquels se trouvaient les préparations les plus diverses, furent administrés aux faux patients, et ce, alors qu'ils avaient simulé le même symptôme. Dans l'une des institutions, Rosenan fut même retenu pendant 52 jours. Ça fait quand même long, se souvient-il, mais finalement je m'étais habitué à la vie d'interné. L'expérience contraire permit à David Rosenan de berner une seconde fois l'établissement psychiatrique. Pour cela, il annonça aux médecins d'une clinique psychiatrique qu'il allait leur refiler de faux patients dans les 3 mois à venir. Or, cette fois, il ne leur envoya pas des individus sains, mais 193 patients véritables. 10% de ces malades psychiques se virent refuser l'internement avec le motif qu'ils étaient en parfaite santé. La publication de ces expériences dans Science, de la normalité dans un environnement fou, en 1973, ébranla la crédibilité de la psychiatrie. Les premiers essais menés par le chercheur lui-même révélaient l'arbitraire des neurologues. Selon quels critères détermine-t-il finalement la frontière entre sain et malade ? La réponse du psychologue David Rosenhan laisse songeur. Nous avons beau être intimement convaincus de pouvoir distinguer le normal de l'anormal, les preuves de cette distinction ne sont tout simplement pas péremptoires. Voilà, c'est un premier extrait, cette fameuse expérience de David Rosenhan, très connue.
Oui, là, comme j'entends ça, je me dis, selon quels critères ceux qui décrivent l'expérience estiment-ils qu'ils étaient parfaitement normaux ? Enfin, je veux dire, ça veut dire oui. Quoi d'être parfaitement normal, ça peut, voilà, après tout, ils étaient peut-être plus anormaux qu'ils le croyaient. Non, mais je fais l'andouille, mais tu vois ce que je veux dire ? Au fond, je réfute l'idée d'être parfaitement normal, quoi, tu vois. Mais c'est juste que tu demandes ce que ça veut dire, effectivement, que d'être... si malade que ça mériterait un traitement. Voilà, puisque tout à l'heure on va passer de la musique de Courge, c'est la musique d'un dessinateur de BD qui s'appelle Matt Conture, et là je lis qu'il a lu un livre qui s'appelait, que je vais essayer de me procurer, qui s'appelle Je suis un schizophrène, et en lisant ça il s'est dit, ah ben c'est ça, alors je suis schizophrène, pourquoi ? Parce que il est morose des fois, qu'il rêve de faire, enfin son fantasme c'est de retourner à l'état sauvage, qu'il parle pas beaucoup, qu'il est timide et tout, et ça serait un symptôme de schizophrénie. Je l'ai connu, toi aussi d'ailleurs. Franchement, je dis pas que j'en ferai un modèle de normalité, mais de dire qu'il est schizophrène, je trouve ça très exagéré, quoi. Oui. Tu vois, et donc on en avait parlé une autre fois, mais le fait de dire ces psys étaient des gens parfaitement normaux, parfaitement me paraît, je sais pas ce que ça veut dire d'être parfaitement normal.
Enfin, oui. Et puis schizophrène, en même temps, c'est pareil, c'est la différence entre celui qui vit cette schizophrénie tous les jours, si tu veux, et ceux qui se disent cette personne est schizophrène. Peut-être que chez la personne extérieure, c'est un truc super grave. Ah, il est schizophrène, elle est schizophrène. Alors que pour celle qui est, désignée ou diagnostiquée schizophrène, eh ben, c'est peut-être pas si dur que ça.
Ça dépend. Moi, j'ai mon frère, son problème, c'est qu'il a des crises d'angoisse terribles. Et dans ces cas-là, quand ça se passe, il demande à avoir des médicaments pour momentanément au moins calmer l'angoisse, quoi. Oui. Ce qui est embêtant, c'est quand ça te fait souffrir. Voilà. Les maladies en général, d'ailleurs. Voilà. Les soi-disant maladies. On est au micro, hein, par ça.
Ouais, il y a des copains qui viennent enregistrer dans le studio B.
Si tu veux, c'est comme pour les maladies physiques, on va te dire que t'as, enfin le docteur Knock qui te demande si ça te chatouille, ça te gratouille, ni l'un ni l'autre, là c'est la maladie, on peut dire elle est vraiment imaginaire. Si jamais tu as un symptôme qui te fait spontanément souffrir, bah comme d'ailleurs Matt Conture qui finalement s'est rendu compte que ses symptômes étaient pas du tout psychosomatiques, il est atteint de sclérose en plaques et c'est pas imaginaire du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de remède réellement à ça. Hein. Et donc, tu vois, c'est ça, c'est la souffrance. Mais est-ce que la souffrance est induite de l'extérieur ? Enfin, certaines maladies, qu'elles soient psychologiques certains symptômes peuvent être vraiment très dérangeants pour la personne elle-même, quand tu souffres, par exemple. Tu vois, et, oui. Et effectivement, souffrir de la peur, comme pour mon frère, il a peur qu'on veuille le tuer, et c'est vraiment quelque chose qui est très très difficile à vivre. Tu vois, un peu comme dans Le Locataire de Polanski, tu vois, tu te dis comment on peut même supporter une terreur pareille, quoi, tu vois. Oui. Donc, dans ces cas-là, il demande de l'aide. Mais une fois que ça s'arrange, il arrête spontanément ses médicaments. Il veut juste faire disparaître la souffrance. C'est ça qui devrait être le critère, que la personne elle-même juge qu'elle a besoin d'aide, tu vois. Mais en revanche, je suis perplexe par rapport aux gens qui se décrètent parfaitement normal.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. On pourrait ajouter que, pour définir un peu les troubles dits mentaux, il y a différents axes. Il y a, pour essayer de comprendre l'origine, d'où vient ce problème-là. C'est-à-dire, il y a l'organogénèse, on l'appelle ça, ou la psychogénèse, ou la sociogénèse des maladies mentales. C'est-à-dire que la maladie mentale viendrait soit d'une... Enfin, ça peut être, en fait, ça peut se mêler aussi, d'ailleurs, d'une origine organique, c'est-à-dire physique. Par exemple, on a vu que certains dysfonctionnements au niveau de... comment dire, de l'intestin peut provoquer des hallucinations, des choses comme ça. Et ça peut être d'origine la psychogénèse. Donc là, il s'agit de la l'expérience et du développement de la personne. Donc c'est un peu individualisé, quoi, quelque part. On fait appel au niveau thérapeutique, à la psychanalyse la parole, l'échange parlé pour essayer de comprendre pour que la personne raconte, en fait. Et puis il y a la sociogénèse qui est plutôt plus défendue par l'antipsychiatrie, qui est l'axe des origines sociales de la, entre guillemets, maladie mentale. Donc là, effectivement, on a pas mal de choses qu'on peut citer, les conditions de travail, je vais pas les donner toutes. Voilà. Et certaines associations de patients à une époque avaient aussi trouvé une troisième catégorie, c'était la iatrogénèse, c'est-à-dire que la psychiatrie elle-même pouvait être source de, voilà, de troubles mentaux. Bon, alors je poursuis.
Je voulais faire juste une parenthèse, oui, par rapport à ce que tu viens de dire, pour en venir même d'ailleurs à l'idée du cas de la maladie du dessinateur Matt Conture. Oui. C'est effectivement des gens qui décrètent que simplement le fait d'être marginal est une maladie. Et il y a un passage qui m'avait choqué dans une des BD de Matt, comme c'est autobiographique toujours de Matt Conture. C'est à un moment donné, il a du mal à se trouver une copine, et il y a une fille qui lui dit, j'étais choquée, quoi. Elle lui dit, parce qu'il est coiffé bizarrement, on va dire, il y a des espèces de locks, et tout, très très... Il a toujours été coiffé punk, mais assez extrême. Donc, la fille, voyant que, bon, ça, il est embêté de pas avoir trouvé une copine, ce qui, d'ailleurs, c'est pas une maladie non plus, il finit par en trouver des copines, mais à un moment donné, comme il est isolé, il trouve pas de copine. Mais elle en profite pour lui dire, ouais, mais il faudrait que tu changes, que tu coupes tes cheveux, que tu changes de coiffure, parce que moi, un mec coiffé comme ça, j'en veux pas, il a pas tout réglé, tu vois. Wow. Oui. Wow. Et je me dis, il y a des gens qui disent des trucs comme ça. C'est une maladie de se coiffer, de façon originale, quoi. Tu vois, et ça, c'est quand même aussi l'idée que quelqu'un qui est différent puisse, c'est un symptôme. C'est quand même aussi quelque chose que la résistance à la psychiatrie dénonce. On n'a pas à traiter de malade quelqu'un qui a une personnalité originale, quoi. Voilà, c'est tout. Bref, oui, continue, excuse-moi.
Ah non, mais... Alors, peut-être qu'on peut d'ailleurs écouter les musiques
De Matt Conture, justement, enfin, du groupe de Matt Conture.
Et de ses amis, voilà.
Et ses amis. Donc aucun des musiciens.
Et ensuite, nous poursuivrons la lecture de ce chapitre où la folie devient normalité de Jörg Blech, auteur de Les inventeurs de maladies.
J'en ai plus cassé de cette tonne de papier et jeté un papier en public. De bois. Un œil à gauche, un œil à droite. Allez, vas-y, coco, à toi. La fumée monte en ligne droite. Mais là-bas, au bout de l'allée, apparaît l'eau qui est plus redoutée. Le joint expire sous le talon. L'ultime bouffée sort du poumon. Pour un petit joint, c'est l'attaque. Baisse la tête, la lame attraque. Et si c'était une seringue, ils sortiraient leur pingue. Je m'en fous quand je serai grand. Fini le froid du petit banc. J'irai au bistrot boire du blanc. Au chaud avec les autres gens, dans les jardins urbains, les gros flics attaquent, les gros flics matraquent, les petits fumeurs de joint, sur les grands bancs de bois, un œil à gauche, un œil à droite. Allez, vas-y, coco, à toi. La fumée monte en ligne droite. Et là-bas, au bout de la rue, apparaît l'eau qui vient redouter. Les gens tirent sur le talon. L'ultime bouffée sort du poumon. Pour un petit joint, c'est l'attaque. Baisse la tête, la lame attraque.
Voilà.
Ouais, c'est incroyable, il parle mille fois plus que... C'est quand il chante qu'il parle, en fait, Matt Conture. Ça mérite une douche bien glacée, ça, quand même. Il n'a pas tout réglé, quoi. J'adore, hein. Je ne connaissais pas. On trouve ça nulle part.
Oh, oui, c'est sur des cassettes.
Mmh. Oui, comme, oui, voilà, comme ce que faisait Thierry Leveau, effectivement.
Les nouvelles souffrances de l'âme. Alors, donc, on a vu qu'on a, que c'est difficile de distinguer le normal de l'anormal. Face à ce dilemme, le zèle ou la maladie professionnelle, des psychiatres qui réinterprètent un comportement normal en une attitude nécessitant un traitement ne faiblit toujours, pourtant pas. Bien au contraire, le nombre de maladies psychiques répertoriées par les classifications officielles a connu ces dernières années une augmentation exceptionnelle. Après la Seconde Guerre mondiale, le catalogue de la Veterans Administration ne recensait aux États-Unis que 26 troubles. Le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, actuellement en vigueur. Alors, faut dire que ce livre a été écrit en 2005. Donc, on en était encore au DSM-4. Depuis, il est apparu le DSM-5. Ouais. Je ferme la parenthèse. Donc là, c'est le DSM-4. Donc, ce manuel compte 395 maladies différentes que l'on peut diagnostiquer et par conséquent prendre en charge. De la même manière, quantité de troubles sont venus augmenter la classification internationale des maladies, CIM-10, utilisée en Allemagne et qui se réfère à la liste américaine. La progression épidémique de la folie et de la démence ne permet pas seulement d'assurer un revenu aux neurologues et aux psychothérapeutes, elle promet aussi aux entreprises pharmaceutiques de somptueux bilans financiers. La stratégie « vend une maladie et tes médicaments se vendront » est particulièrement courante dans le domaine de la neurologie pour la bonne raison que les critères de diagnostic y sont par nature malléables. Les campagnes d'information de l'industrie pharmaceutique visent des problèmes psychiques mineurs susceptibles de concerner un grand nombre de personnes. Les enfants indisciplinés, par exemple, se voient affublés d'une affection appelée trouble oppositionnel avec provocation. On a vu aussi le TDAH, le trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, qui est mais en France aussi appliqué. Donc, une de ces maladies qui est un peu, comment dire, qui est faite à partir d'un comportement de l'enfant dans un milieu scolaire général. Et pour lesquels on associe un traitement.
Je crois que c'était la Ritaline. À un moment donné, il était. Je ne crois pas que ce soit autorisé en France, mais c'était très. Il en était fortement question, parce qu'il y avait même une demande des parents, oui. Du genre mon gosse me fatigue, et hop, sous médicaments.
Alors. Pour les patients, les médecins et les laboratoires pharmaceutiques, les catalogues de maladies sont de première importance. Une affection doit en effet y être répertoriée pour que les caisses d'assurance maladie prennent en charge les coûts engendrés par les médicaments et la thérapie. Alors, je crois que je suis sur un passage que j'avais déjà lu il y a quelque temps de ça. Je vais un peu plus loin. Donc, ciblant ce marché, l'entreprise... une affection doit en effet y être répertoriée pour que les caisses d'assurance maladie prennent en charge les coûts engendrés par les médicaments et la thérapie. Ainsi, depuis que la dysphorie prémenstruelle a été intégrée à la liste américaine des troubles psychiques... Les psychiatres sont eux aussi habilités à traiter cette prétendue affection féminine avec des médicaments psychotropes s'il le faut. Ciblant ce marché, l'entreprise Lilly a ainsi pu recycler un produit bien connu. Le brevet du Prozac, best-seller pharmacologique, étant arrivé à échéance, l'entreprise commercialise à présent la même molécule sous le nom de Safarem, un médicament censé lutter cette fois contre le grave syndrome prémenstruel. Les psychiatres entrent alors en concurrence avec les gynécologues, ces derniers jouant les apprentis sorciers avec des préparations hormonales destinées à combattre le même phénomène. Parmi ces nouvelles souffrances de l'âme, ainsi que les nomme le psychiatre Asmus Finzen, nombreuses sont celles qui ne constituent en réalité que des difficultés inhérentes à toute existence. Le deuil a, par exemple, fait son entrée en psychiatrie sous la forme d'un trouble d'adaptation pathologique, CM10F43. Il s'agit ici d'états de souffrance subjective et de confusion émotionnelle qui gênent les fonctions et les capacités sociales et surviennent pendant le processus d'adaptation suivant un changement décisif, un événement traumatique ou une maladie physiologique grave. L'originalité, elle aussi, est exagérée au point de devenir un trouble de personnalité antisociale. En additionnant les données relatives à la fréquence des maladies psychiques fournies par le DSM-4, Asmus Finzen a mis en évidence le résultat suivant. 58% des individus souffrent à un moment donné de leur vie d'un trouble de la personnalité. Par conséquent, il est normal d'être mentalement malade. Afin de satisfaire cette armée de prétendus malades psychiques, l'industrie dispose d'une colossale réserve de médicaments, les antidépresseurs notamment, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, dont le Prozac est le premier exemple et le plus connu, sont devenus des produits à la mode pour lutter contre la mélancolie, la tristesse ou les angoisses. Vert et blanc, les gélules de Prozac augmentent la quantité de sérotonine dans le cerveau et égayent ainsi l'humeur. La sérotonine est un messager important du cerveau qui influence des sentiments tels que la fierté et l'estime de soi. Certes, les ISRS ont des effets secondaires, tels que l'absence de désir sexuel ou, dans de rares cas, une prédisposition accrue à la violence et au suicide. Mais beaucoup de gens sous ISRS déclarent que la molécule leur permet d'avoir des idées plus claires, d'être plus sûr d'eux, plus disponibles. Celle-ci a ainsi ouvert la voie de la psychiatrie cosmétique, pour reprendre les termes du neurologue américain Peter Kramer dans son best-seller Prozac, le bonheur sur ordonnance. Des individus en parfaite santé prendraient du Prozac pour se sentir mieux que bien. Autrefois, au service du malade mental, les entreprises pratiquent aujourd'hui une industrie de la santé vouée au bonheur psychique. L'un des effets secondaires notoires de ce remonte moral doit en outre être signalé. Depuis que l'on sait que les ISRS et d'autres médicaments modifient certaines facettes du comportement humain, ses traits de caractère et ses humeurs sont systématiquement médicalisés. L'angoisse, notamment, a éveillé la convoitise des fabricants de cachets. Au début de l'année 2022, pas moins de 27 molécules différentes, conçues pour lutter contre les troubles de l'angoisse, attendaient leur mise sur le marché dans les starting blocks du développement industriel. Les efforts de la recherche rappellent le meilleur des mondes dépeint par Aldous Huxley. Dans son roman, 2000 pharmacologues et biochimistes se voient confier la tâche de développer une drogue populaire qui rendrait les gens heureux et les priverait d'esprit critique. Grâce au soma, vous vous offrez un congé hors de la réalité chaque fois que vous en avez envie. À l'origine conçue pour le traitement des dépressions graves, les ISRS sont aujourd'hui prescrits dans les pays occidentaux contre un pêle-mêle de troubles encore inexistants il y a quelques années. La paroxétine, par exemple, est maintenant autorisée aux États-Unis dans le cas de traitement contre le trouble anxieux généralisé, le trouble panique, le trouble obsessionnel compulsif et l'état de stress post-traumatique. Pour gagner une nouvelle clientèle, des millions sont investis dans la propagation de phénomènes obscurs. L'Américain Arthur Levin, chargé de la protection du consommateur, déclare « Les symptômes sont si larges, si vagues, que presque chacun d'entre nous peut s'écrier « C'est tout à fait mon cas, ça !» De nouveaux troubles sont habilement créés qui s'appuient sur des maladies déjà reconnues. Dans le sillage de la dépression, les médecins et l'industrie auraient ainsi identifié un état qu'ils ont baptisé « dysthymie ». Fatigue, abattement, doute, qui ne connaît pas ces phases où l'on voit tout en noir, s'interroge la Société allemande de psychiatrie, de psychothérapie et de neurologie, affirmant en outre que cette perception négative représenterait un état permanent pour jusqu'à 3,3 millions d'Allemands. Selon la même société, ce trouble serait bien trop rarement reconnu comme maladie et traité en conséquence. L'usage populaire, quant à lui, nomme le patient dysthymique par le seul nom qui lui convienne, grincheux.
Ça me paraît vachement important, cette histoire de vocabulaire, parce que on peut constater d'autres exemples. Par exemple, il y a un de mes enfants qui on considère que c'était un symptôme, l'absentéisme scolaire. tu vois. Oui. Et il fut un temps, on appelait ça faire l'école buissonnière.
Oui, tout à fait.
C'est vrai, quoi. t'as tout un tas de mots comme ça qui sont censés désigner, effectivement, enfin, qui font un peu peur, quoi. Même des trucs où je me dis, par exemple, j'ai lu une BD et puis même d'autres, des articles sur l'idée des pervers narcissiques. Et c'est apparu comme ça. Moi, j'aurais appelé ça un connard, quoi.
Oui.
Non, mais je m'excuse, mais okay. C'est vrai, présenter. Enfin, il faut qu'on arrive à mettre une étiquette, finalement, psy, sur un phénomène qui est très ancien et où on mettait un mot qui était plus trivial, quoi. Je me demandais d'ailleurs si c'était pas un truc, en ce qui concerne l'absentéisme scolaire, c'est que c'est un fléau qui, t'es malade si t'as pas envie d'aller à l'école, tu vois, si t'es malade si t'as pas envie d'aller de travailler, par exemple, tu vois. Je sais pas s'il y a un mot pour ça, mais enfin, c'est aussi pour être offensant. Je pense que les gens se sentent offensés, à juste titre, quand, par exemple, je trouve que c'est offensant de dire à quelqu'un qui s'est fait une coiffure originale qu'il a pas tout réglé. Enfin, je veux dire, c'est le fait de dire que, même si il mérite d'être insulté, mais le fait de dire, au fond, enfin, tu vois, pour insulter quelqu'un, dire, t'es malade, tu vois, t'es un malade, c'est une façon de prendre le dessus sur lui, de dire moi je suis parfaitement normal et toi en fait va te faire soigner, tu vois cette idée. Et les gens que j'estime que c'est des connards, je trouve ça extrêmement toxique d'essayer de psychiatriser, tu vois, ton adversaire. Et je trouve que c'est vachement courant. Une femme, tu vois, si elle se met en colère, elle est hystérique, enfin tu vois ce que je veux dire, le fait de dire t'es fou, t'es malade, psychiatriser comme ça quelqu'un avec qui t'es en conflit, j'invente pas, ça vous dit à tous quelque chose, je suis sûre.
C'est beaucoup dans le langage commun, oui.
Voilà, oui. Et puis c'est une pratique assez courante pour clouer le bec de ton contradicteur, oui. de lui dire en réalité t'es malade, va te faire soigner, moi je suis parfaitement normal, oui. Et toi, tu souffres d'une pathologie.
Employer ces mots-là, c'est presque... comment dire, avoir du pouvoir sur l'autre.
Voilà, c'est ça, je pense, oui.
Eh bien, on va écouter encore un peu de courge, si
vous,
tu veux.
Volontiers.
Tous les matins, le long des rues, je me fous le cul par-dessus tête, je trouve ma vie dans le détritus, et j'y fais même des galipettes. Dans les poubelles, il y a des trésors, des belles arêtes, des autres poulets. Un jour, j'y ai même trouvé une espèce de bague en or. C'est un boulot très fatigant et dangereux, faut faire attention, on peut choper des petits boutons. Moi, pour fouiller, je mets des gants. Faut se lever de bon matin, l'hiver, il fait encore tout noir. Sur cette affaire, on est quelques-uns, les collègues, les chats et les grands noirs. Eux, ils prennent pas le temps de trier, ils vident tout vite fait dans la benne. Ils sont toujours en mitouflés, on voit juste leur tronche d'ébène. Une fois, il y en a un qui m'a dit, avec tout ce qu'il y a là-dedans, il y a de quoi nourrir mon pays. Les hommes, les femmes et les enfants. Dans mon pays, il n'y a pas de poubelle, et il n'y a pas de déchets non plus. Les éboueurs ont de grandes ailes, c'est les vautours au bec crochet. Quand quelqu'un meurt dans la rue, 2 heures après, il n'y est plus. Quelques ombres planent dans le ciel, c'est un luxe, une poubelle. Je lui ai dit, tu as raison, et tout cela qui gouverne, ils préfèrent foutre le tout dans la benne. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Je lui ai dit, tu as raison, mais tout cela qui gouverne, ils préfèrent foutre tout dans la benne. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Toi, moi, et ce qu'il y a dans la poubelle, nous sommes le caca de ces enflés. Et le jour où ce qu'on va crever, notre cercueil sera une poubelle. Dans les poubelles, y a des trésors. La vieille pute accoudée au comptoir repense à ses années de gloire. À l'époque, elle faisait pas les clochards. Dans son job, c'était une vraie star. Pour monter les mecs au septième ciel, on trouvait pas meilleur qu'elle. Pour écouter ce talent de spécialiste, fallait attendre longtemps sur la liste. À présent, pour un chanteur, elle se tape trois cloches en un quart d'heure. Dans sa vieille bouche toute édentée, ça défile par wagon entier. Ça lui permet de nourrir ses chats et de payer le loyer de sa pieuvre. Elle trouve la vie moins drôle, mais on n'y peut rien.
De Matt Contour
sur Radio Libertaire.
Ouais, si vous êtes intrigué par ce que peut dessiner Matt Contour, c'est vraiment très très. Enfin, que penses-tu des BD de Matt Contour en toute objectivité?
Moi, je les aime bien. De toute façon.
Moi, je les adore. Non, donc, si vous êtes intrigué, même pour y jeter un coup d'œil, à la librairie Publico, donc 145 rue Amelot, dans le 11e métro République, Oberkampfville du Calvaire, vous pouvez, qui est ouverte cet après-midi, hein, à partir de 14h, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, vous demander à regarder, il y a plusieurs exemplaires de Sclérose en plaques de Matt Contour, où, entre autres, il raconte sa maladie.
Oui.
Voilà. Donc.
Oui, c'est. Alors. Dans la continuité du texte que je vous ai lu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je veux dire. J'étais en train de regarder si. Voilà. Un texte qui avait été trouvé sur Zinzinzine et qui s'appelle « Trois raisons inquiétantes qui permettent à la psychiatrie de conserver son pouvoir malgré sa perte de crédibilité scientifique ». Mais je ne vais pas avoir le temps de tout lire parce qu'on n'a plus qu'un quart d'heure à peine. Alors, je vais en lire qu'une partie. Et donc, ça a été publié par Zinzinzine le 7 septembre 2015. L'excellent site Zinzinzine qui s'est fini. Voilà, il a disparu. On peut pas le retrouver. Voilà, il est fermé. Voilà. Enfin, ce sont des bonnes choses qui s'en vont comme ça. Alors. « Jusqu'où faut-il aller ici pour perdre un temps soit peu de crédibilité ? Demande le reporter Jess Essinger dans un article de 2012 au sujet des plus hauts et hautes dirigeantes de Wall Street qui ont créé la crise financière mais qui sont restés les plus hauts dirigeants de Wall Street continuant de siéger au conseil d'administration d'entreprises privées ou à but non lucratif, servant de régulateur et dont les opinions restent convoitées par les grands éditorialistes et les talk-shows. Wall Street n'est pas le seul endroit où quelqu'un peut avoir complètement tort tout en gardant une puissance influente. Une puissante influence. Les influents psychiatres, faiseurs d'opinions et les grandes institutions psychiatriques, selon leurs propres aveux récents, se sont trompés à plusieurs reprises concernant la validité du modèle maladie-trouble, les causes biochimiques et les traitements médicamenteux. De plus, dans plusieurs cas, leur corruption par les industries pharmaceutiques a été découverte. Pour autant, ils continuent d'être pris au sérieux par les médias. Pendant que le soutien financier de l'industrie pharmaceutique est une des raisons pour laquelle la psychiatrie parvient à conserver son influence, ce n'est pas la seule raison. De façon plus insidieuse, la psychiatrie conserve son influence en raison des besoins de la structure du pouvoir qui plus largement nous gouverne. La structure de pouvoir qui nous gouverne. Et peut-être plus troublant encore, la psychiatrie conserve son influence à cause de nous et de l'augmentation de nos peurs qui ont conduit à des besoins accrus en coercition. Ça, c'est la thèse de Bruce Levin. Mais avant d'aborder ces trois raisons, un peu de documentation sur la perte de crédibilité scientifique de la psychiatrie dans plusieurs domaines critiques. La perte de crédibilité scientifique de la psychiatrie. L'invalidité du DSM. En 2013, la Bible diagnostique de l'Association américaine de psychiatrie, le DSM, a été vivement critiqué par les piliers de l'institution psychiatrique. Thomas Insel, directeur du National Institute of Mental Health, la plus haute autorité gouvernementale en santé mentale des États-Unis, a infligé un sévère blâme au DSM en annonçant que les catégories diagnostiques du DSM manquaient de validité et en déclarant que la NIM, donc l'acronyme de ce que j'ai dit tout à l'heure, réorientera ses recherches en s'éloignant des catégories du DSM. Fin de citation. En 2013, également, Alan Frances, l'ancien président du groupe de travail en charge du DSM-4, publie son livre « Saving Normal, an insider's revolt against out-of-control psychiatric diagnosis, DSM-5, Big Pharma and the medicalization of ordinary life ». Donc le titre signifie « Sauver le normal, une révolte de l'intérieur contre les diagnostics psychiatriques incontrôlables, le DSM-5, l'industrie pharmaceutique et la médicalisation de la vie ordinaire ». La théorie du déséquilibre biochimique discréditée. Ce fut une grande surprise pour la journaliste Alix Spiegel en 2012 de découvrir que l'institution psychiatrique affirme maintenant avoir raison, avoir toujours su que la théorie du déséquilibre biochimique dans la dépression était fausse. Ronald Pièce, rédacteur en chef émérite du Psychiatric Times, a déclaré en 2011 « En vérité, la notion de déséquilibre chimique a toujours été une sorte de légende urbaine. Jamais une théorie sérieusement défendue par des psychiatres bien informés. » Insel, le directeur du NIM, N-I-M-H, avait déjà dit au Newsweek en 2007 que la dépression n'est pas due à des niveaux bas de neurotransmetteurs tels que la sérotonine. Cependant, la psychiatrie n'a pas fait de tentative sérieuse pour faire savoir que la recherche avait rejeté cette théorie du déséquilibre chimique, une théorie efficacement utilisée dans les publicités pour vendre des antidépresseurs censés corriger ce déséquilibre. Un déséquilibre que la psychiatrie savait ne pas exister. Repenser l'efficacité des médicaments antipsychotiques et antidépresseurs. En 2013, le directeur du NIMH, Insel, a aussi annoncé que le traitement de base pour les personnes diagnostiquées avec une schizophrénie ou d'autres psychoses n'a pas été bénéfique pour de nombreuses personnes et qu'il doit changer de façon à mieux refléter la diversité de cette population. Citant des études sur le long terme, Insel en a conclu que sur le long terme, beaucoup de personnes ayant été diagnostiquées psychotiques s'en sortent en réalité mieux sans médicaments antipsychotiques. Concernant les antidépresseurs, l'émission 60 minutes en 2012 a rapporté une information que les chercheurs qui travaillent sur ces médicaments connaissent depuis longtemps. Les placebos sont presque aussi bénéfiques que les antidépresseurs, même dans les études biaisées des entreprises pharmaceutiques en faveur des antidépresseurs. Le reportage de 60 minutes s'est focalisé sur un chercheur en psychologie, Irvin Kirsch, qui a utilisé la loi pour la liberté d'information afin d'effectuer des recherches sur les essais cliniques et d'entreprises pharmaceutiques publiées et non publiées concernant les données de 6944 patients et patientes provenant des tests de la FDA, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Pour les 6 antidépresseurs les plus populaires, Prozac, Paxil, Zoloft, Effexor, Celexa et Cerzone. Les traitements psychiatriques peuvent augmenter le risque de suicide. La FDA, Federation Drug and Food Association, malgré les protestations de l'institution psychiatrique, a émis des avertissements sur les emballages des médicaments concernant la probabilité d'augmentation du risque de suicide pour les patients et patientes en dessous de 25 ans qui utilisent des antidépresseurs. En 2014, Alternet rapporte « La recherche semble montrer que les interventions psychiatriques telles que l'admission dans un établissement de santé mentale pourraient augmenter le risque de suicide », citant une étude de l'Université de Copenhague qui comparait des Danois qui s'étaient suicidés à une population témoin entre les années 1996 et 2009. Les chercheurs ont constaté que prendre des médicaments psychotropes au cours d'une année antérieure était lié à une augmentation du suicide de 5,8 fois. La fréquentation d'un établissement psychiatrique en ambulatoire était associée avec une augmentation de 8,2 fois. Être admis en chambre d'accueil d'urgence psychiatrique était associé avec une augmentation de 8,2. Et l'admission dans un hôpital psychiatrique était liée à une augmentation de 44,3 fois du taux de suicide. Bien que, là on parlait des effets iatrogènes tout à l'heure, bien que la corrélation en elle-même ne signifie pas nécessairement lien de causalité, un éditorial du même journal dans lequel l'article a été publié soulignait que les associations détaillées dans cette étude indiquent une bonne probabilité de relation causale. Parmi les raisons pour lesquelles un traitement psychiatrique pourrait bien augmenter le risque de suicide, outre les effets secondaires des médicaments, il y a la stigmatisation et le trauma dû au traitement, comme le déclare l'éditorialiste. Il est donc tout à fait plausible que la stigmatisation et le trauma inhérents au traitement psychiatrique, particulièrement celui qui est contraint, puissent, chez des individus déjà vulnérables, contribuer à certains suicides. Fin de citation. Créer la stigmatisation avec les théories de l'anomalie biochimique. Dans l'institution psychiatrique, il a été longtemps proclamé que considérer la maladie mentale comme une maladie du cerveau, une anomalie biochimique, conduirait à moins de stigmatisation. Mais la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, dans une étude des recherches intitulée « Mythe, repenser la maladie mentale comme une maladie du cerveau réduirait la stigmatisation », a rapporté en 2012. Malgré de bonnes intentions, les faits montrent qu'en réalité, les campagnes anti-stigmatisation soulignant la nature biologique de la maladie mentale n'ont pas été efficaces et ont souvent empiré le problème. L'exemple en est donné par une étude de 2010 dans Psychiatry Research qui rapporte que, pour le grand public, l'acceptation du modèle biogénétique de la maladie mentale était associée avec un désir de plus grande distance sociale avec les malades mentaux. L'étude de la FCAS, donc la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, affirme Les faits nous montrent qu'alors que le public fera peut-être moins de reproches à des individus pour leur maladie biologiquement déterminée, l'idée même que leurs actions puissent être au-delà de leur contrôle conscient peut créer la peur de leur imprédictibilité et donc la perception que les malades mentaux sont dangereux, ce qui conduit à l'évitement. La corruption de la psychiatrie par l'industrie pharmaceutique, alors là on en a parlé. L'industrie pharmaceutique finance lourdement les départements universitaires de psychiatrie, sponsorise des conférences et la formation continue des psychiatres, fait de la publicité dans leurs revues professionnelles et paye des cliniciens et cliniciennes et des chercheurs de premier plan pour être porte-parole et consultant. J'ai décrit, écrit Levin, dans Surviving America's Depression Epidemic, le titre signifie « Survivre à l'épidémie de dépression aux États-Unis » en 2007, et mise à jour dans Truth Out en 2012, comment, en pratique, chaque manière dont le public et les médecins reçoivent de l'information sur la santé mentale a été corrompue par l'argent des entreprises pharmaceutiques. En 2008, les enquêtes du Congrès sur la psychiatrie ont révélé que les grandes institutions psychiatriques comme l'Association américaine de psychiatrie et plusieurs psychiatres leaders d'opinion, y compris le psychiatre d'Harvard Joseph Biderman, étaient corrompues par les entreprises pharmaceutiques, créant des conflits d'intérêts évidents et endommageant un peu plus la crédibilité de la psychiatrie. Le New York Times a rapporté ce qui suit concernant Biderman. Un pédopsychiatre de Harvard à la renommée mondiale dont le travail a contribué à faire exploser l'utilisation de puissants antipsychotiques chez les enfants a gagné au moins 1,6 million en frais de consultation de la part des fabricants de médicaments de 2000 à 2007. De plus, le Times a rapporté plus tard que Biderman avait tenu au courant Johnson & Johnson que sa proposition de recherche sur leurs médicaments antipsychotiques, le Risperdal, tournerait en la faveur de Johnson & Johnson avant de livrer la marchandise. Biderman était seulement un cas parmi plusieurs autres psychiatres influents concernés par l'enquête du Congrès. Le DSM, manuel de diagnostic, est publié par l'Association américaine de psychiatrie, AAP, et selon le journal PLOS Medicine, je cite, 69% des membres du groupe de travail du DSM rapportent avoir des liens avec l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc ça, là, c'était un extrait. J'en ai lu que la moitié. Et donc, de Bruce Levin, c'était un article du 6 janvier 2015. Eh bien, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui.
Je pense qu'on peut-être, là, j'ai pas fini de lire le livre sur les diagnostics.
Oui.
Et je pense qu'on pourrait peut-être refaire une autre émission. Je trouve que c'est un thème assez essentiel, quoi. Donc, tu serais OK pour qu'on en fasse une autre ?
Tout à fait.
Ouais.
Voilà. Voilà, la semaine prochaine, on parlera de la question posée au gouvernement par les députés autour de la psychiatrie.
Avec André Bitton ?
Avec André Bitton, ouais. Du CRPA. Eh bien, au revoir, à la semaine prochaine. Alors, on va écouter maintenant l'émission Un rayon de soleil. Ensuite, nous aurons à 14h des cailloux dans l'engrenage avec un hommage à Thierry Delaveau qui nous a quittés. Et puis, bon, voilà, la journée après, c'est à 16h le Ferré Club et à 18h30, Femmes Libres. Voyons. Bon, ben, en attendant, un rayon de soleil, un petit peu, encore un peu de musique underground. We'll be right back.
rayon de soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Tous les nuisants, tu casses-tu.